les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone de l'été et du dimanche, complément de la librairie francophone estivale, diffusée le samedi à 9h. Reportages, livres de poche pour l'été, souvenirs de l'émission, grand entretien et séquences créoles sont au programme. Aujourd'hui, nous irons à Séoul, en Corée du Sud, avec le prix Nobel Jean-Marie-Gustave Leclésio. Vous entendrez Richard Boringer pour un livre de poche à lire pendant vos vacances. Gottlieb et Claire Bretéché seront dans notre séquence souvenirs et un moment surréaliste fascinant avec l'illusionniste canadien Luc Langevin. Chaque semaine, en soutien aux librairies indépendantes, nous serons aussi en ligne avec un libraire français pour son coup de cœur estival et une anecdote de libraire. Aujourd'hui, nous irons en Guadeloupe, mais avant, on part à Séoul.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Bonjour Jean-Marie Gustave Leclésio.
Bonjour Emmanuel.
Nous sommes à Séoul, ici, en Corée du Sud. Et on domine la ville. On est sur une colline, la pointe de la radio qui est juste derrière nous. C'est un lieu très emblématique dans le livre.
Oui, nous sommes à Namsan, c'est-à-dire la montagne du sud. C'est une ville qui est semée de collines. Et il y a peut-être une vingtaine de collines dans cette ville. Et chaque colline est laissée à l'état naturel. Ce n'est pas construit. Sauf que certaines collines sont occupées par un temple bouddhiste. Et je crois que ça donne un esprit particulier à cette ville. C'est une ville qui est posée dans la nature, au milieu des montagnes. En même temps, c'est très proche de la mer, au bord d'une rivière qui est extraordinairement large et puissante. Et donc, il y a une présence de la nature très forte à Séoul.
Derrière nous, il y a un groupe folklorique, justement, sur ce plateau qui domine la ville. On a toute l'étendue de Séoul devant nous avec un nombre considérable d'immeubles, avec des collines. C'est très vallonné, effectivement. Votre personnage, Bitna, va sillonner la ville. On va sillonner la ville à notre tour. Et on quitte cet espace ici à Séoul avec la pointe de la radio, l'émetteur radiophonique immense qui domine la ville. C'est très symbolique évidemment pour nous et on va se diriger vers la ville. Alors ici il y a 11 millions d'habitants à Séoul, sur l'agglomération 22 millions. C'est à peu près la moitié de la population du pays, puisque la Corée du Sud compte 50 millions d'habitants. Donc c'est très concentré, il y a énormément de monde en Corée du Sud. Des échoppes un peu partout, et puis des camelots aussi, qui sont là à proposer des services de couture, à vendre des babioles, porte-clés, ou ceintures ou autres colliers. Et puis des sortes d'échoppes aussi dans lesquelles on peut se fournir en cosmétiques ou bien aussi en vêtements ou en nourriture. Tout est mélangé ici. Vous pouvez nous décrire ce qu'on voit là juste devant nous, puisqu'on arrive sur un autre site, un autre lieu ici à Séoul.
Oui, on arrive après avoir traversé des petits quartiers fort sympathiques. On arrive devant ce grand palais avec ses toiture incurvée, semble-t-il, ont été entièrement reconstruits dans le Geographical Magazine dans les années 50. Il y avait des photos de Séoul, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. C'était Ground Zero. On avait rasé la ville complètement. Donc tout a dû être fait.
Alors qu'autrefois, il y avait des petites ruelles qu'on a vues d'ailleurs en passant. On a traversé un quartier commerçant avec des bars, des restaurants, tout a été refait. Puis derrière, comme une arrière-cour, une arrière-salle, il y a ces petites ruelles très très étroites et tout Séoul était construit comme ça.
Exactement, oui, c'était une ville ancienne, c'est une ville qui avait survécu à toutes les invasions, mais la guerre moderne a eu raison de toute cette architecture.
Vous arrivez, vous, Jean-Marie Gustave Leclésio, de vous retrouver dans un lieu et de vous mettre à écrire? Vous avez besoin d'un cadre particulier?
Ah oui, je peux écrire n'importe où. Mais de préférence dans un endroit qui ne soit pas trop bruyant, mais je n'ai pas besoin d'être à un bureau dans un endroit qui m'est familier. J'aime bien en fait être dépaysé Et c'est pourquoi j'aime bien me déplacer. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui voyage, mais je me déplace. Et ça me permet d'avoir d'autres habitudes, d'entendre d'autres sons. Je ne suis pas attaché strictement au son de la langue française. J'aime bien entendre les autres sons.
On est où, Jean-Marie, là ?
Eh bien, on est à Ongdangsan, ça dit Ongdangsan, pardon, le temple qui est très voisin de l'université d'Iwa. C'est un temple bouddhiste au milieu de la verdure, au sommet d'une colline. Et donc, il faut souffrir un peu pour y arriver.
C'est vrai, on souffre un peu, mais ça va encore.
Oui, c'est joli parce que c'est un temple qui a été reconstruit. Il a dû être démoli pendant la guerre. Mais il y a de jolies couleurs. Et toujours dans le style très oriental, les fleurs et les dragons qui surveillent aux angles.
C'est un pays très tolérant, la Corée du Sud, avec plusieurs religions, le christianisme, le bouddhisme. Des musulmans aussi sont représentés ici. On dit que c'est un pays très ouvert, très tolérant.
Oui, c'est la vérité. C'est un pays qui a souffert beaucoup des invasions et donc forcément de l'intolérance qui s'en suivait. Et donc ils ont été la bonne école pour accepter tous les cultes et toutes les cultures, tout en restant très fortement patriotique. C'est un pays où les gens cultivent le patriotisme avec beaucoup de soin, mais avec raison.
Dans votre roman, Bitna sous le ciel de Séoul, il y a la religion, mais qui est distillée simplement, parce que vous l'évoquez un peu comme un respect quelque part, comme si vous étiez non pas obligé de le faire, mais par tolérance et par ouverture et par respect, comme l'est d'ailleurs votre personnage.
Oui, je pense que Bitna, elle ne peut pas ne pas être séduite par l'idée de la réincarnation, parce qu'elle est devant quelqu'un qui est en train de mourir peu à peu, et les histoires qu'elle raconte ne se terminent pas toutes bien. Et la réincarnation, c'est un moyen de faire terminer les histoires, de les faire rebondir dans une autre dimension. Et il y a en particulier une chanteuse qui s'est pendue, s'est suicidée, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes en Corée. Et là, nous écoutons le son du gong.
Ah oui, qu'on entend derrière, qui est dans l'une des salles du temple.
À la prière, donc ça doit être à l'autre temple. Ouais.
Là, on voit des gens prier, là, juste au-dessus,
là-haut, oui,
avec Bouddha, là, un Bouddha tout blanc.
Oui, en effet.
Voilà, Jean-Marie Gustave Leclésio, on est dans la ville, au cœur de la ville de Séoul, ici, avec de grandes artères, beaucoup de monde dans les rues, comme c'est d'ailleurs décrit dans votre roman. Et votre personnage, Bitna, aime bien se balader dans la ville de Séoul.
Oui, c'est une ville très animée, c'est une ville qui bouge. Et un des moments que Bitna aime beaucoup, et moi j'aime ça aussi, c'est très tôt le matin. Vous sortez très tôt le matin, et là, ce sont des vieux et des vieilles qui ramassent les cartons, qui ramassent tout ce que les étudiants et les plus jeunes ont laissé traîner dans la nuit, et mettent ça sur des petits chartons, et j'imagine vont les vendre ensuite dans des ateliers de récupération. Et donc c'est très étonnant de voir ces différentes couches de la population qui ne bougent pas au même moment, qui bougent à des moments différents.
Et tout le monde travaille, c'est vrai que tout le monde travaille. Là on dit que c'est la ville qui ne dort pas, non pas parce que les Coréens font la fête, mais parce que soit certains vont au travail, soit certains rentrent du travail. Et comme vous le dites, il y a ces personnes qui récupèrent, qui recyclent les déchets, un peu comme au Brésil d'ailleurs, on trouve cela.
Oui, c'est une sorte d'activité permanente, comme dans toute bonne fourmilière qui se voit. Et on pourrait imaginer que dans une ville comme Séoul, un étranger ou quelqu'un qui n'appartient pas à la population locale serait mal reçu, mal regardé. Et il y a toujours quelque chose de bienveillant à Séoul. C'est une ville très, très accueillante en fin de compte.
Très bruyante aussi, hein, vous l'entendez derrière nous. On va se diriger vers le métro, car votre personnage qui aime se balader dans la ville prend aussi les transports en commun. Il y a une ligne aérienne de métro, comme on trouve d'ailleurs à Paris ou dans d'autres villes du monde. Et c'est un espace de liberté pour elle. On va se diriger vers la station, Jean-Marie. Et il y a une sorte d'axe principal. C'est le fleuve Han. Alors on va y aller, on va se balader d'ailleurs là-bas, sur un bateau. Oui. Et pour cela, on va prendre le métro. Donc, voilà, c'est ce qu'on est en train de chercher, la station de métro dans la ville de Séoul. Je crois que c'est là, voilà, City Hall.
Vous remarquez qu'il y a une marche pour entrer dans le métro. C'est parce qu'il y a des inondations très souvent et l'eau irait cascader à l'intérieur du métro. Au moment de la mousson, on a de l'eau quelquefois presque jusqu'au genou.
Ah, et, dans la ville de Séoul.
Oui. Et les Coréens ont un trait que j'aime beaucoup, les Coréennes surtout, c'est que quand ça devient trop problématique, ils enlèvent leurs chaussures. C'est le meilleur moyen de remarcher pour ne pas tomber, c'est de ne pas avoir de chaussures. La ligne 2. J'aurai droit au free ticket. Bah, je suis un vieux. Hein. Non, parce que le métro à Séoul a cet intérêt extraordinaire, c'est qu'il est gratuit pour les anciens.
Ah bon ?
Et donc, c'est un lieu de réunion des anciens. Les anciens, les vieux, vieilles, se retrouvent dans les wagons, ils discutent, ils regardent, ils cherchent s'il y a des étrangers pour aller leur parler.
Ou... Ah, c'est vrai ?
Oui, c'est comme une sorte de café ambulant pour eux.
Ouais. Ouais. Métro de Séoul. Votre personnage, Jean-Marie Gustave Le Clézio, dit « La ville est si grande, on pourrait marcher un million de jours sans rencontrer deux fois la même personne, même si le proverbe dit « On se reverra un jour ou l'autre sous le ciel de Séoul ».
Oui, c'est une ville qui est très animée, en effet. Et il y a beaucoup de visages différents.
Alors, on va rentrer dans le métro, il est déjà là. C'est beau, c'est grand. Il est vaste.
Oui, c'est assez propre. En fait, c'est pourquoi j'aime beaucoup circuler en métro à Séoul.
Très propre, très grand, avec des wagons qui ne sont pas séparés par des portes. Et il y a juste des portes coulissantes, automatiques, qui permettent de passer d'un wagon à l'autre. Un sol vert, des poignées vertes très vives, vert herbe. On est encore dans la nature, même dans le métro à Séoul.
C'est une capsule spatiale. Nous sommes des visiteurs d'un autre monde. Et comme vous pouvez voir, à chaque extrémité, il y a des vieux.
Ah oui, au bout là-bas.
La journée à tourner dans la Circle Line, de faire le tour de Séoul. Et en regardant les curiosités que nous sommes, par exemple.
Avec un micro, c'est sûr qu'on est un peu repéré. Mais alors, c'est très agréable comme métro. C'est vrai qu'on a envie d'y rester, donc je comprends les vieux, comme vous dites, qui restent toute la journée, parce que c'est plutôt confortable. Voilà, on va descendre ici. Voilà, on est au bord du fleuve Han, ici à Séoul, Jean-Marie Gustave Le Clézio, au milieu des oiseaux aussi, au bord de l'eau, hein, on pourrait toucher l'eau là quasiment. Et ce fleuve, c'est l'axe central de cette déambulation dans la ville, c'est aussi l'axe central pour les séoulites.
Oui, c'est une artère de vide et de vie animale aussi. Ce qui est étonnant dans ce fleuve, c'est qu'il est très très vaste près de l'embouchure, et ça fait de Séoul vraiment une ville maritime. D'ailleurs, les oiseaux que nous voyons là sont presque tous des oiseaux de mer. On voit des goélands, des mouettes et des plongeons ou des cormorans. Et un peu plus loin, je crois que le bateau tout à l'heure va nous y emmener, il y a une île qui s'appelle Pomson, c'est-à-dire l'île des châtaignes, l'île des marrons. On va parler aux Corses, l'île des châtaignes.
Merci beaucoup Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Merci à vous et Emmanuel Kérad.
La librairie francophone... Emmanuel Kérad.
Le livre de Jean-Marie Gustave Le Clézio, Bitna sous le ciel de Séoul, est paru chez Stock et en poche au Livre de Poche. Son dernier livre, dont nous avons parlé dans la librairie francophone estivale du samedi il y a 3 semaines, Chanson bretonne, est paru, lui, chez Gallimard. Son entretien est à écouter d'ailleurs en podcast sur notre site internet franceinter.fr, la librairie francophone. Un autre auteur a publié son livre en poche, c'est Richard Bohringer qu'on écoute tout de suite.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Sur cette musique de Marvin Gaye qui semble réjouir Richard Bohringer, parce que vous le citez à plusieurs reprises dans votre ouvrage, Marvin.
Bah, c'est un des plus grands chanteurs de soul music. Il faut le voir, en plus, il y a toujours une injustice. Ça veut dire que cette voix est magnifique, et ce qu'elle possède à l'intérieur est extravagant d'humanité. Mais quand on le voit chanter, ouais, il y a des DVD là-dessus, quand on le voit chanter,
il dégage quelque chose.
Il y a une force terrible là-dedans, il y a une mise en place, comme on dit, une syncope incroyable. C'est Mister Soul, quoi, Marvin Gaye.
Alors vous êtes parmi nous, Richard Bohringer, pour les nouveaux contes de la Cité perdue aux éditions Flammarion. Dans ce roman, Richard, il y a ce personnage John, je dirais même John Richard, mais bon, ça c'est un autre problème. Un personnage double qui s'appelle également Thierry. John, c'est sa part d'ombre, ou plutôt une part de lumière, une partie de lui qui veut croire en un monde différent. C'est comme cela un personnage lunaire. Et vous racontez que John était un acteur très populaire, qui a flingué sa carrière, qui a pété les plombs. Qu'est-ce qui lui est arrivé réellement ?
Ça veut dire qu'à un moment, Bohringer m'a fait chier, quoi. Bohringer, il était plus supportable pour moi, et réellement... Et...
Ah, donc vous vous associez totalement à ce personnage ?
Oui, dans ce passage-là.
Vous avez peur de la suite, vous, hein ?
Non, pas. Mais je suis en quête de retrouver Richard, quoi. Richard me plaît beaucoup plus.
Il vous plaît beaucoup plus que John ?
Il me plaît plus que Bohringer.
Oh là là. Ça devient un compliqué. Parce que ce John, finalement, il est assez sain dans son esprit. En tout cas, il cherche un paradis perdu, il cherche une humanité perdue. Il est comme cela dans le rapport fraternel, dans l'amour-amitié aussi. C'est plutôt beau, ça. C'est plutôt vous, d'ailleurs.
Ben, ça va, alors tout va bien, mais je répéterai encore. Il y a plus de... Ça veut dire, on cherche toujours quand on avance en âge et quand, il y a eu beaucoup de films, il y a eu beaucoup de trucs, il y a eu beaucoup de machins. Il y a un moment, on essaye de rejoindre son adolescence quand on s'appelait Richard, quoi.
Mais c'est pas un caprice de star, ça ?
De...
Bah comme ça, de dire oui, quand il y a eu beaucoup de films, tout ça.
Non, c'est pas un caprice de star. Quand je dis il y a eu beaucoup de films, c'est tant mieux, je suis très heureux. Mais ça a pu déplacer pendant quelques années mon centre, mes vrais centres, quoi.
Votre équilibre.
Mon équilibre, ça a pu le... Je me suis engagé dans des combats, mais est-ce que j'y ai vraiment été... comme j'aurais dû y aller. Est-ce que c'est pas Bohringer qui m'a freiné par rapport à Richard, quoi. Voilà. C'est comme Thierry et John dans le bouquin. C'est exactement le même truc.
Et il y a cette mélancolie comme ça qui va lui couper les jambes. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, ce John. Vous savez d'où elle vient, sa mélancolie ? Qu'est-ce qu'il a déclenché ?
La mélancolie, je l'ai toujours eue. J'ai toujours été... Je vis dans la mélancolie. Mais c'est une mélancolie, comment dire... De temps en temps, elle est radieuse, quoi. De temps en temps, elle m'élève, elle me rend plus proche de l'autre, plus fraternelle. Parce que je vois dans les yeux de l'autre son chagrin humain d'homme ou de femme. Je vois toutes ces choses qui me touchent profondément, auxquelles je suis très attaché. Je suis très attaché au chagrin des autres. C'est un truc comme ça, mais c'est parce que peut-être j'en ai eu beaucoup aussi, j'en sais rien.
Et
mais...
votre personnage aussi, d'ailleurs, il dit rassembler son âme en écrivant. Il dit que c'est une souffrance aussi d'écrire. C'est aussi une façon de réinventer un monde meilleur. Il va écrire ce livre, justement, Les Nouveaux Contes de la Cité Perdue, hein, ce même titre. Il va rendre aussi hommage à ses amis disparus. Et cette amitié fraternelle, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour lui. Il regarde la vie à travers ses amours.
Je regarde la vie à travers les amours et à travers mes potes qui sont plus là, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout funèbre, mon truc. C'est qu'ils m'ont tellement donné, ils m'ont tellement apporté, ils m'ont tellement construit que c'est vrai que orphelin petit et orphelin très grand, quoi. Je veux dire, très vite, très âgé, quoi. On suit la route, il n'y a pas de problème, j'y suis.
Richard Bohringer, vous écrivez ce passage. Il avait vu les gens sur la plage, des milliers de shorts, de marchands à la sauvette, de glace au chocolat, à la vanille, les hordes de vacanciers, de voitures, les unes derrière les autres, de soutien-gorge, de soutien-rien, d'endroits de frime où on s'arrose avec du champagne en riant comme des cons, de voitures décapotables, ridicules, ou bien si belles que John avait de la compassion pour la bagnole, de grosses lunettes de soleil, de femmes frimeuses et stupides, de gosses avec des grosses montres, de pauvres venus voir comment vivent les riches, les courtisans de stars poussant des bandeaux, c'était pire que la décadence, c'était le cynisme, le trou cérébral, les riches et leurs courtisans visités par les pauvres.
Oui, mais je l'écris, je persiste et je... Voilà où je voulais vous emmener aussi. Non, mais je comprends très bien. De toute façon, je comprends très très bien.
Mais quand il y a le trou cérébral comme ça, comme vous dites, c'est la fin de la démocratie, la fin de liberté, de la fraternité, puisque l'égalité, on l'a déjà perdue.
Ouais, c'est peut-être pas la fin de la démocratie. En tous les cas, c'est vrai qu'il n'y a qu'aux gens humbles qu'on demande d'être républicains, quoi. Jamais à ceux qui ont du pognon. Mmh. Donc ça m'échauffe les oreilles et je prends des grosses crises là-dessus, parce que demander à une femme ou un homme qui gagne 1000 euros par mois, lui demander d'être républicain et de comprendre, ainsi de suite, et puis au-dessus de savoir que voilà, on leur demande pas d'être républicain puisqu'on leur laisse placer leur pognon ailleurs.
Et le roman de Richard Boringer, Les Contes de la Cité Perdue, est paru en poche chez J'ai lu. À suivre, le souvenir de la semaine, avec deux grands dessinateurs disparus, mais qui ont laissé un incroyable héritage. Gottlieb et Bretéché se sont croisés ici même pour un entretien commun qui restera dans nos mémoires. Ce sera après un titre acoustique joué dans notre studio par Bernard Lavillier, petit cadeau musical.
Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché. T'es comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale, tombant sur les dalles et ce lit glacé. Allez venir, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés. Cette solitude, si dure et si rude, qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune, sur le sol allume, visage oublié. De celui que t'aimes, qui tire sur sa chaîne, comme un loup blessé. Betty, faut pas craquer. Betty, faut pas plonger. Je sais, ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Faut pas pleurer. Betty, faut pas trembler. Je sais, on se retrouvera là, ailleurs. En plein soleil.
C'était Bernard Lavillier dans notre studio avec Betty. Notre séquence souvenir à présent avec Gottlieb et Claire Bretéché. Un moment de radio que vous avez plébiscité d'ailleurs à la mort de Claire Bretéché cette année. Ils étaient déchaînés et si contents de se retrouver sur un plateau de radio. Ils nous avaient offert cette exclusivité-là. Écoutez. Gottlieb et Claire Bretéché sont dans la librairie francophone cette semaine pour l'intégrale d'Agrippine et l'intégrale de Rubrique à Braque. Alors vous êtes déjà venus dans cette émission individuellement. On est très heureux de vous retrouver ensemble. Cela fait des années que l'on attend de vous voir ensemble sur une grande radio ou à la télévision. Vous retrouver comme cela, ça vous renvoie une forme de nostalgie ou vous vous en fichez complètement ?
Non, moi je m'en fiche pas, et toi ?
Ah ben moi je suis ravie de le voir, mais je me fous complètement de la nostalgie.
Oui.
M'intéresse pas du tout.
Vous n'aimez pas le passé, vous ?
Non.
Vous n'arrivez pas à vous plonger dans le passé ?
Pas le mien, en tout cas. Mm. Celui des autres, éventuellement.
Alors, vous avez travaillé tous les deux au magazine Pilote, avec Goscinny. Vous avez fondé ensemble l'Écho des Savanes. Est-ce que ce magazine, c'était une forme d'exutoire, après avoir été privé de gros mots, de sexe, parce que c'était assez strict, hein, avec René Goscinny?
Claire Bretacher.
Ça dépend pour qui. Pour moi, pas du tout, parce que j'étais très libre à pilote. Enfin, on était tous très libres à pilote, ouais. Sauf Marcel, qui voulait absolument dessiner des bites. Alors, à pilote, il pouvait pas, parce
menteuse.
Que... C'est vrai.
Menteuse.
Comment ça, menteuse?
Non, t'as
tu
raison.
Me laisses parler? Si, il est infernal. Alors, vous voyez la vie que j'ai eue à l'Écho des Savanes. Bon, alors, bref. Tout ça pour dire, je sais plus quoi, qu'il avait besoin, et effectivement, il avait besoin d'un exutoire, ça c'est sûr. Alors, sur ce plan-là.
Il vous aimait bien quand même. On a retrouvé un son de 1989, je crois, où Marcel parle de vous, Claire. Écoutez, c'est pas mal.
Oula. Elle faisait tout son possible pour qu'on la considère comme un mec, comme un homme qui dessine, comme un membre de l'équipe. Et je me souviens très bien que ça l'agaçait, par exemple, quand elle arrivait pour s'installer avec nous et que l'un d'entre nous se levait pour lui céder sa place, par exemple. Alors, elle le traitait de phallocrate macho. Cela dit, quand personne se levait, elle hurlait qu'on manquait de courtoisie et de galanterie. C'était très dur de... avec elle. Enfin, non, je plaisante.
Quel menteur, c'est effrayant.
Ça le fait beaucoup rire encore.
On ne peut pas se défendre.
Elle
ne
veut pas
se défendre contre ça.
Le reconnaître, mais c'est la vérité.
Oui, bien sûr.
Il y a un côté laborieux dans votre travail. Hein. Claire Bretacher, je sais que vous pouvez passer des heures sur un dessin. Le plus dur pour vous, c'est de démarrer un album, les 20 premières planches.
Oui, oui. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de mal à refaire des pages isolées, comme je faisais dans l'Observateur, par exemple.
Ouais.
C'est plus agréable de faire une histoire qu'on s'est déjà construite dans la tête et on sait où on va, donc il y a moins d'angoisse.
Et vous êtes laborieuse dans le travail, au bon sens du terme ou...
Oh, je bosse comme un chien quand je travaille, oui.
D'ailleurs, non, vous avez dit être une feignasse dans la presse française.
Je suis feignasse entre deux albums.
Vous avez dit, j'ai une vie de bigorneau et quand je ne travaille pas, je suis une grosse feignasse.
Ben, c'est, voilà, je confirme.
Les bigorneaux, c'est les feignasses aussi.
C'est vrai. Elle voulait dire sans doute qu'elle se...
Non, mais
elle s'enferme dans sa coquille pour travailler.
Non, mais il comprend rien.
Non, mais c'est dingue. Ouais, c'est dingue. Vous vous souvenez de cette période rubrique à bras, Gottlieb, quand vous travailliez 10 heures d'affilée?
Oui, bien sûr.
Sur votre planche. Et vous dites, ça m'a démoli, cette période-là. Deux paquets de cigarettes et une dépression.
Oui, oui. Ça dépend quelle période. La ouais. période pilote ne m'a pas démoli du tout, c'est la plus belle de ma vie. Ensuite, j'ai fait une grosse bêtise en voulant fonder un journal, et ça allait bien au début, et ensuite, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur, parce que on peut pas faire deux choses à la fois, s'occuper de façon directoriale, disons, de ce que les jeunes vous soumettent, et ensuite rentrer à la maison, changer de chapeau et se mettre à dessiner, se mettre à créer.
C'est vrai que quand on parcourt les rubriques à bras, on se dit que vous êtes un très bon dessinateur. Un peu mégalo, un peu prétentieux, mais très bon quand même.
Oh non, je ne suis pas mégalo, je le fais exprès.
Oui, non mais bon, non, mais évidemment, dans le personnage. Mais vous savez tout dessiner, hein, c'est vrai.
Non, je ne sais pas faire les décors. Je ne sais pas faire
tout
ce qui est technique, les machines, les voitures, les vélos. J'ai admiré des vélos dessinés par Franck, hein, avec une roue un peu de travers devant quand on tourne. Ouais. Et j'ai jamais su. Moi, il me faut. Quand je dessine un vélo, une bicyclette, il faut que je prenne un compas pour les deux roues. C'est
tout. Oui. Ah oui, quand même, oui.
C'est rond. Hein.
C'est toujours votre référence à vous deux, Franck. Hein. Claire, je sais que vous le citez souvent. Ouais. Ah,
pour moi, oui.
Moi
aussi.
C'est la plus grande.
Quelle partie de Franck, hein, les idées noires ou...
Ah non, je ne suis pas folle des idées noires. Non, tout le reste, tout ce que vous avez là notamment. Tous les albums de Spirou, dessinés par Franck, hein, parce que ce n'est pas son personnage au départ.
Gaston Lagaffe, et elle aime pas les idées noires par jalousie.
Non, pas du tout, non. Je le trouve pas très drôle. Mais
c'est pas drôle, non. C'est vrai qu'il est en pleine déprime quand
il est en pleine déprime.
Mes personnages préférés dans Franquin, c'est Jules de chez Smith en face et Bertrand Labévue.
Et quand vous regardez Super Dupont, Gottlieb, aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disaient qu'il annonçait d'une certaine façon l'intégrisme politique que l'on connaît aujourd'hui? Le racisme, l'intolérance.
Je me souviens plus, mais nous, on insistait particulièrement sur cet aspect-là, de façon justement parodique, de façon outrancière. Il y a une histoire qui est parue dans Fluide où il fait de la pub pour les Boulkiès, et il dit que c'est sa lutte contre le racisme, parce qu'il il donne des Boulkiès à un noir, un juif et un arabe, et il les traite de sale youpin, sale bico, et tout, et les gars, ils se marrent, ils n'entendent pas.
J'ai une dernière question pour vous, question d'un auditeur laissé sur un célèbre réseau social qui vous pose cette question, Gottlieb. Bonjour Marcel, qu'en pensez-vous ?
De quoi ?
Bah, je sais pas, hein, vous avez engendré des générations de déjantés, moi je pose la question.
Je sais pas, mais c'est sur Facebook.
C'est ça.
Ah, sans blague. J'y suis pas. Et je pense que Facebook, c'est un bouquin de fesses. Comme son nom l'indique.
Ça dépend où on va. Je sais pas où vous allez, non. Mais ça dépend.
Et cela dit, je le remercie de m'avoir posé cette question, d'ailleurs.
Claire, vous la détestez toujours, notre époque.
Pourquoi ?
Vous disiez qu'elle était un peu individualiste, un peu consommatrice, qu'elle nous faisait perdre nos repères.
Quand est-ce que j'ai dit ça,
à l'époque d'Agrippine.
Elle n'a jamais dit ça.
si.
Non, mais de toute façon, j'ai toujours détesté les époques dans lesquelles j'ai vécu. Je pense que c'est un fond de caractère.
Merci beaucoup, Claire Brotéché. Merci, Marcel Gottlieb. Oui, un dernier mot.
T'as vécu au Moyen-Âge et t'as détesté.
Quel trou du cul.
L'intégrale de Rubrique à Braque et l'intégrale d'Agrippine sont éditées par Dargaud, deux ouvrages indispensables. Merci à tous les deux pour ce moment un peu surréaliste, mais savoureux. À bientôt.
Merci.
Et chaque semaine de l'été, dans cette librairie francophone diffusée le dimanche uniquement sur France Inter, on part à la rencontre des libraires en soutien aux librairies indépendantes françaises. Aujourd'hui, direction Le Moule en Guadeloupe avec la librairie Point Lire. Bonjour Louis-Guy Floris.
Bonjour Emmanuel.
Alors où êtes-vous d'abord ? Décrivez-nous la librairie, Louis-Guy, en ce moment même. Que voyez-vous, tiens, par la vitrine ?
La librairie se trouve au Moule. Donc Le Moule, c'est une petite ville qui se trouve sur la Grande Terre, une commune à l'est de la Grande Terre. Et là, de ma vitrine, j'ai une vue sur la mer, au large, l'océan Atlantique, les falaises de la Grande Terre. Donc on est dans un cadre idyllique.
J'imagine.
Avec les livres et la nature.
Justement, quel livre conseillez-vous pour l'été, Louis-Guy Floris ? Quel livre avez-vous envie de vendre cet été dans votre librairie ?
Alors, j'ai choisi de vous présenter un polar. Il s'agit d'un grand écrivain guadeloupéen, Ernest Pétain. Le titre du livre, c'est « La Darse Rouge », qui est paru chez Caraïbes Éditions dans la collection Polar Poche.
Oui.
C'est un roman qui est sorti il y a quelques années et que j'ai redécouvert pour mon plus grand plaisir pendant la période de confinement. L'histoire se passe à Pointe-à-Pitre et a pour principal protagoniste un inspecteur, l'inspecteur Maurice. Don Maurice, il mène une enquête sur la mort horrible d'un notable pointois retrouvé assassiné et surtout émasculé près de la Darse.
Voilà,
ça rigole pas. Hein.
Ouais.
Et l'homme en question, l'homme qui a été assassiné, Maître Quimpera, c'est un notaire de son état. Et en fait, Pépin dit que en fait, Comte, c'était un grand viveur malhonnête. Et là commence l'enquête. C'est un beau polar. Donc il n'y a pas beaucoup de polars antillais. Et moi, ce que j'aime dans l'écriture de Pépin, c'est qu'il fait une description magnifique de Pointe-à-Pitre.
On sent qu'il
aime cette ville.
Mais c'est sa spécialité, ça. Les descriptions, la poésie d'Ernest Pépin, on connaît ça. On le salue d'ailleurs, Ernest, parce que c'est un grand auditeur de la librairie francophone en Guadeloupe. Merci pour ce conseil, Louis-Guy. On vous a demandé aussi de réfléchir à une histoire personnelle de libraire. Une anecdote drôle, étonnante, ce que vous voulez, qui vous a le plus marqué ces dernières années dans votre librairie.
Alors, c'est quelque chose qui nous est arrivé il n'y a pas très longtemps. Hein, et souvent, c'est surtout à cause de vous, Emmanuel.
Ah bon ?
Suite aux émissions du samedi, librairie francophone, je ne sais pas, les gens écoutent l'émission.
Ouais.
Et le lundi, par exemple, ils viennent nous voir et ils nous disent, voilà. Donc, j'ai entendu parler d'un livre dans l'émission. Mais par contre, j'ai ni le titre ni l'auteur. Est-ce que vous l'avez ? Voilà. Donc nous, on doit mener l'enquête comme Don Mouril, essayer de retrouver. Voilà. Donc ça nous arrive régulièrement. Donc, mais c'est très sympa.
Bon, bah écoutez, vous allez sur Internet. Hein, il y a toutes les références. Hein. Vous tapez la librairie francophone, en général, vous trouvez.
voilà. Il faut faire des recherches et voilà. On retrouve. On arrive à retrouver en ayant des indices. À retrouver les ouvrages. Voilà.
Et vous mettrez la librairie francophone à la radio dans votre librairie. Comme ça, vous serez tranquille. Vous aurez directement la voix de l'émission.
Eh ben, excellent. Eh ben, j'y penserai. Voilà. Bon. Samedi, les gens écouteront en live.
Comme ça, ils achèteront les livres directement. Merci beaucoup, Louis Guy Floris. Merci, Louis Guy.
Eh ben, avec plaisir. Merci, Emmanuel. Au revoir.
Je rappelle que vous êtes libraire en Guadeloupe, au Moule, dans la librairie Point Lire. À bientôt. Bel été à vous aux Antilles. Dans un instant, l'illusionniste canadien Luc Langevin, effarant, troublant, perturbant, il raconte sa passion pour l'illusion et ses performances qui laissent plus que perplexe. Mais vous allez l'entendre, tout s'explique, ou presque, ce sera après la chanteuse Isia dans la librairie francophone. Bel été et bonnes vacances sur France Inter.
Où est passé le vrai désir d'être vivant, les envolées sauvages et les nuits éblouissantes. Je sais, c'est trop facile de dire que c'était mieux avant. Sous les pavés, la plage, sous le sable, le ciment. Y'a tout qui reste à faire. Y'a tout qui reste à faire.
C'était Isia avec Sous les pavés dans la librairie francophone.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
Et on se retrouve dans nos studios de Montréal. Bonjour Luc Langevin.
Bonjour Emmanuel.
Votre livre « La science de l'illusion » décrypte la magie par le prisme de la science. C'est un récit qui nous fait parfois rêver, qui nous laisse perplexes aussi. On peut trouver des vidéos sur Internet avec vos illusions face à des personnalités. Il y a des moments à la fois émouvants et surprenants. Vous êtes un grand artiste, Luc, vraiment. Tout est dans l'émotion. Pour créer de l'illusion, il faut un contexte, il faut raconter une histoire.
Tout à fait, oui, je crois que c'est la plus belle magie qu'il y a dans l'illusion, finalement, de faire rêver par l'histoire, par le contexte dans lequel les miracles sont présentés. Ça fait toute la différence, selon moi.
Les miracles, vous parlez de miracles encore ?
Ouais, ben je dirais que autant que la magie que les miracles, ils se produisent dans la tête des gens plutôt que dans la réalité. C'est ce que je raconte dans mon livre, d'ailleurs.
Ouais. Alors, vous arrivez à nous fasciner avec des tours simples utilisant des élastiques ou des bagues. Ce n'est pas le plus spectaculaire, mais c'est intriguant quand même. D'autant plus, je dirais que ça s'explique, car vous le dites dans le livre, nous avons tous une faille dans le fonctionnement de nos yeux et de notre cerveau.
Oui, tout à fait. Puis, en fait, on a plusieurs failles dans notre cerveau que les illusionnistes peuvent exploiter pour créer des illusions. C'est ce que je décris dans le livre. Donc, je parle de plusieurs failles. On dit failles, mais en fait, ce sont des raccourcis que le cerveau prend pour nous rendre plus efficaces. Mais dans ces raccourcis, il y a matière à exploiter certaines choses pour les illusionnistes et générer une émotion d'émerveillement. Donc.
Par exemple, qu'est-ce qui cloche dans nos yeux?
Plusieurs choses. Par exemple, ben, évidemment, nos yeux ont une résolution si on veut limiter, c'est-à-dire il y a une limite à la dimension des objets qu'on est capable de percevoir. Il y a une limite au mouvement, la rapidité des mouvements qu'on est capable de détecter. Notre cerveau, en fait, décode environ 30 images par seconde. Donc, si un mouvement est fait en moins d'un trentième de seconde, ben, il est complètement invisible à l'œil. Ouais. On a aussi des phénomènes comme la pertinence rétinienne, qui est si je vous éblouis avec une lumière très forte, une fois que j'aurai éteint la lumière, pendant quelques secondes, vous serez encore aveugle, si on veut, puisque la lumière aura saturé certaines neurones dans votre cerveau et tout. Donc, tout ça, ce sont des failles qui sont exploitables par les illusionnistes.
Donc, la magie, c'est une mécanique de précision. Vous pouvez accomplir comme ça des gestes si rapides qu'on ne peut pas les voir?
Tout à fait. Ça demande de l'entraînement, mais c'est ce que plusieurs magiciens font. C'est possible d'y arriver et c'est une des façons par lesquelles on peut créer des illusions.
Ouais. Et ça va très loin, Luc Langevin, comme avec le chorégraphe et danseur québécois Jean-Marc Généreux, devant qui vous allez disparaître pour laisser la place à un enfant. Simplement derrière un rideau que vous montez devant vous, il y a une vidéo sur Internet. Écoutez un extrait.
OK. T'es prêt, Jean-Marc?
Absolument.
Écoute, Jean-Marc, j'ai avec moi ici le premier jeu de cartes que j'ai possédé dans ma vie. J'avais 14 ans la première fois que je l'ai utilisé en spectacle. Jean-Marc, mais réellement, si on pouvait reculer dans le temps. Personnellement, moi, c'est à l'époque où j'avais 14 ans que j'aimerais revenir, au moment où j'ai goûté aux applaudissements pour la première fois avec ce jeu de cartes-là. Je me place en position, juste ici, mais tu peux garder la tienne.
Ouais.
Je vais prendre juste ça ici. Voilà. C'est bien mélangé?
Oui.
Oui. Jean-Marc, c'est à l'époque où j'avais 14 ans que j'ai appris à peu près tout ce que je sais faire avec un jeu de cartes. C'est, je dirais, c'est une époque que je revivrai n'importe quand.
Et t'es où, là?
Alors, il y a un enfant qui apparaît.
T'étais pas mal plus beau!
À ce moment-là.
Waouh! J'aimerais reprendre mon jeu, s'il vous plaît.
Et cet enfant vous ressemble, Luc Langevin. C'est incroyable.
En fait, je donne l'illusion de rajeunir à l'âge de 14 ans. Je pense qu'on on a bien compris avec l'extrait sonore.
Ouais.
Donc, c'est un bel exemple. Un bel exemple d'une illusion que j'ai créée qui allie à la fois science, émotion et interaction avec un artiste. C'est une des illusions qui m'a fait connaître le plus grand succès, je pense. On m'en parle beaucoup. Elle vient toucher une corde sensible. Puis j'ai pu la créer grâce à certains principes scientifiques aussi. Donc, voilà.
Alors, Jean-Marc, merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir contribué à ce qu'un jour, je devienne un grand magicien.
Voilà, il en pleure d'émotion, Jean-Marc Généreux. Et je vous avoue, Luc Langevin, que quand j'ai regardé cette vidéo, moi aussi, j'ai eu un peu la larme à l'œil, à ma grande surprise, parce que c'est le genre de truc qui me touche pas d'habitude. Mais là, vraiment, vous êtes capable de disparaître devant lui, c'est incroyable. Vous êtes capable aussi, alors on va pas en parler là, mais dans des spectacles, de vous téléporter d'un endroit à un autre. Comment est-ce possible? Comment peut-on croire à ça avec un esprit cartésien?
C'est difficile justement de faire croire de telles choses à une personne adulte, des gens, je dirais, qui ont un cerveau mature, parce que les enfants peuvent croire à peu près n'importe quoi, mais mon but, moi, c'était vraiment d'offrir une magie à une clientèle adulte, entre guillemets, parce que la sensation d'émerveillement, on la vit au quotidien lorsqu'on est tout jeune, mais plus on vieillit, plus elle est difficile à obtenir.
Vous ne répondez pas, Luc.
Vous répondez en pas fait, parce que vous voulez pas donner le truc, je sais.
Non, mais j'y viens. En fait, l'usage de la science pour moi, c'est quelque chose qui est crédible. C'est-à-dire que lorsqu'on voit quelque chose qui est impossible, ça nous prend une piste d'explication. Si c'est trop impossible, on va dire qu'il y a un trucage vidéo ou qu'il y a quelque chose. Mais lorsque c'est bien fait, on arrive à faire rêver un adulte. Après, je vais pas vous dévoiler évidemment le secret, parce que le secret est beaucoup moins intéressant que l'émotion que vous avez vécue en voyant le numéro.
Alors, juste un petit indice, vous êtes passionné par la théorie de la relativité, selon laquelle l'espace et le temps sont liés et donc, on l'apprend à l'école quand on fait des études scientifiques, l'un et l'autre relatifs. On peut aller loin avec cette pensée scientifique, évidemment. Il faut savoir, par exemple, que le temps passe beaucoup plus vite, vous en êtes tous aperçus, lorsque vous êtes occupé ou en mouvement que lorsque vous êtes oisif. Et c'est ça la question de la relativité. Et Luc Langevin l'utilise. On va écouter la BO de votre livre, Luc. Un son, une variation de notes, parfois la musique est aussi magique. Elle nous emporte comme ça dans une émotion inattendue. Vous avez choisi le groupe Coldplay.
Oui.
Et le titre The Scientist, étonnant, le savant. On écoute un extrait et on en parle. Magie, c'est du théâtre. Sur scène, je joue un rôle, j'incarne un personnage dont les moindres faits et gestes sont calculés pour que vous ayez envie de le suivre de l'autre côté du miroir et basculiez dans le pays des merveilles. D'ailleurs, bien que je ne me considère pas comme un acteur à proprement parler, je me sens très proche d'eux. Moi aussi, je fais croire des choses au public. Je raconte des histoires, j'invente un univers. Comédiens et magiciens, nous avons le même but, vous divertir et surtout vous faire rêver. Le savant, il est là pour faire rêver Luc Langevin.
Je pense que oui. C'est pas nécessairement ce que font les savants habituellement, mais je crois que ça peut s'entendre. Oui, un savant et un créateur d'émotions. Si on veut.
Vous dites plusieurs fois dans ce livre qu'il y a des choses impossibles à faire. C'est scientifique. Les mentalistes sont des charlatans et ceux qui prétendent pouvoir faire bouger les choses à distance par la force de l'esprit sont des menteurs. Ce sont des illusionnistes. Ce sont vraiment des charlatans, Luc?
Ben oui, ben tout dépend comment ils présentent ce qu'ils font. Si un mentaliste prétend faire de l'illusion, donner l'illusion de lire dans les pensées ou de déplacer des objets à distance, ça, il n'y a pas de problème. À partir du moment où il y a une prétention que tout ça est réel, qu'on a un don, un pouvoir surnaturel, là, j'ai un peu plus de difficultés, puis j'écris au charlatan. Ouais.
Merci beaucoup, Luc Langevin.
C'est un plaisir.
Merci, grand plaisir partagé. La science de l'illusion est parue aux éditions Michel Lafond, un livre surprenant, fascinant à lire en allant voir les tours sur Internet, pour une fois, allez-y, pour vivre des moments qui vont vous plonger dans une grande perplexité.
Écoutez, c'est Amélie qui parle sur une vieille biguine si loin dans sa mémoire. Là, là. Si où aimez-moi, si où aimez-moi, si où aimez-moi, pas fais-moi mal, serrez-moi fort. Si où aimez-moi, si où aimez-moi, si où aimez-moi, oh Kevin, plus belle encore. Elle se souvient, même en dehors de l'école, fallait pas parler créole, pas les créoles, dégager les mamans, c'était la loi. Mais en secret, à la fille du gouverneur, elle apprenait des phrases par cœur. Amélie rit du système, c'est sa philosophie. Amélie rit du système.
Amélie, c'est philosophie.
Amélie se fout du système.
Amélie.
C'était Laurent Voulzy avec Amélie Colbert dans la librairie francophone sur France Inter. On termine cette émission avec le bonus créole dans un restaurant de La Réunion.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Le bonus créole avec Nanou du Planète ici à Saint-Pierre de la Réunion et une recette emblématique, le rougail morue. Nanou, comment on fait ça?
Ah, alors le rougail morue, c'est toute une histoire. Donc il faut déjà choisir une bonne morue, si possible des miettes de morue, parce que la morue entière, c'est difficile à ébouillanter, à épicer, tout ça. Donc moi, je prends des miettes de morue que je dessale 3 fois à l'eau bouillante et ensuite je la fais bien frire.
Que à l'eau bouillante, on ne met pas de lait, rien, on ne dessale pas dans le lait.
Eau bouillante. 3 fois, c'est important pour le dessalage. Et après, je la fais frire et je rajoute au fur et à mesure mes ingrédients, qui sont notamment en premier lieu l'ail, mon gingembre, que je fais aussi bien roussir. Ensuite, je rajoute les oignons, un petit peu de safran. C'est toujours la guéguerre. On dit que, ici, on dit qu'on ne met pas de safran dans les rougailles, mais moi, je suis désolée, j'ai toujours appris à cuisiner comme ça. Donc, je mets un petit peu de safran pays. Attention à pays. Hein. Et ensuite, je mets mes tomates et que je laisse compoter. Surtout pas d'eau. Surtout pas d'eau. Il faut compoter, que les tomates fondent, les oignons fondent, enfin que tout se mélange, se fasse et tout. Et ensuite, à la fin, j'éteins mon feu. Je coupe des oignons verts pour donner de la belle couleur. Et si quelqu'un aime le piment, je mets du gros piment coupé en biseau assez fin. Et voilà, le rougail morue, tout simple.
Le rougail citron.
C'est sûr que pour accompagner le rougail morue, le rougail citron va très bien. Et il a une petite touche d'acidité pour le canard, justement. C'est un rougail qui est très simple à faire, comme tous les rougails d'ailleurs. La base, le piment.
Quel genre de piment?
Petit piment oiseau, les oignons hachés fins, le citron haché fin pour récupérer le jus, la chair, enfin tout, la peau et tout.
On garde l'écorce?
On garde l'écorce, bien lavé.
Citron jaune?
Citron jaune. Et après, ben, piler le piment, hacher fin les oignons, hacher fin le citron, tout mélanger avec un petit peu de sel, un petit peu d'huile. On rajoute un petit peu d'oignon vert pour la petite touche finale. Et voilà, le rougail citron est fait.
Moi la quitte mon pays, moi la parti jouer la musique. En arrivant par l'avion là-bas, moi la trouve un joli Sega. Les olives ressemblent Bumba, mon créole tape son conga. Mais la mésire, ça n'est pas pareil, mais l'île est doux à l'oreille. Avec un bol orchestre comme maman tropina, piano, guitare, trompette, sax, clarinette, conga. Comme moi la quitte mon pays, moi la parti jouer la musique. En arrivant par l'avion là-bas, moi la tour m'a donné ses gars.
C'était le bonus créole à La Réunion avec la musique de René Lacaille. Et c'est la fin de cette émission de l'été. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation et la production, Cyril Pascal, avec la contribution de Jean-Philippe Verret. À la technique, Fabrice Desmaz et Thierry Dupin à la prog musicale. On se retrouve samedi à 9h pour la librairie francophone estivale avec Leïla Slimani, Enki Bilal, Philippe Besson, Jean-Claude Carrière et le retour de Plastic Bertrand depuis Bruxelles. Dimanche prochain, dans cette librairie francophone de l'été, diffusée uniquement sur Inter, vous entendrez Françoise Hardy, Jean Rochefort dans notre séquence souvenir. On ira aussi au musée Hergé en Belgique et nous serons avec Alexandre Trudeau, le frère du premier ministre canadien Justin Trudeau. À bientôt et bonne semaine à tous.